bienvenue à tous. Nous sommes en direct des Assises du journalisme de Tours sur le plateau de Radio Campus France. Je me présente, je suis Anaïs, bénévole à Radio Campus Tours, et autour de moi, deux superbes co-animatrices. Maëva, bonjour.
Bonjour.
Et Louise, bonjour.
Bonjour.
Alors, pouvez-vous vous présenter, nous dire de quel média vous venez et en quelques mots ce qu'est pour vous un journalisme utile et ou militant ?
Donc moi je m'appelle Héloïse, je viens de Radio Insoumise, sur laquelle je suis à la fois animatrice et productrice. Dans le thème des assises, pour moi le journalisme utile, c'est un journalisme qui est au service des citoyens et en particulier qui vise à favoriser l'accès à une information la plus complète, diversifiée et la plus approfondie possible, en vue de permettre le libre arbitre des destinataires et l'éveil des consciences. Après, en ce qui concerne le journalisme militant, moi j'aime pas trop le terme de militant, pour moi c'est plus du journalisme engagé. On verra, je pense qu'on aura l'occasion de débattre à ce sujet-là après. Mais c'est un peu la même chose en fait. C'est un journalisme qui est inclus dans son écosystème et qui est conscient, qui part de celui-ci pour analyser, décrypter et hiérarchiser l'information.
Et Maëva ?
Alors moi je m'appelle Maëva, je suis en service civique dans une radio qui s'appelle La Rage, qui est une petite radio participative, qui est une radio d'engagement et une radio de territoire, qui est située sur la communauté de communes de Touraine-Vallée de l'Indre. Donc pour moi, une information utile, c'est, comme on l'a beaucoup entendu pendant les assises, c'est un peu un pléonasme. Et donc, pour définir quand même selon moi ce que c'est une information qui permet à chacun d'exercer sa citoyenneté dans une démocratie. Pour faire assez court. Et un journalisme militant, je te rejoins là-dessus. Pour moi, le terme militant, c'est vraiment quelque chose qui est accroché à des partis politiques. Et donc, je parlerais plutôt de journalisme d'engagement ou de journalisme engagé que de journalisme militant, sauf pour certains cas peut-être très précis de médias qui sont rattachés à un parti politique ou presque. Voilà. Et pour toi, du coup ? Qu'est-ce que c'est que tout ça ?
Alors, moi, j'aime plus parler de journaliste utile et non de journalisme utile, qui est fait pour moi, ce serait celui qui ne va pas forcément chercher à plaire, mais plus à intéresser. C'est celui qui va se battre pour la vérité, qu'elle aille dans le sens ou non de l'opinion publique. C'est le journaliste utile, c'est celui qui va révéler, expliquer justement le bonheur ou le malheur de la société, que ça plaise ou non, tout simplement. Après, en ce qui concerne le militantisme, je suis assez d'accord sur le fait de plutôt axer sur l'engagement. D'autant plus que pour moi, ce qui est important, c'est de défendre une idée et non un groupe ou un parti. C'est le journaliste doit se concentrer sur les idées et non justement que ce soit la gauche, la droite, le centre, peu importe. Voilà.
Alors pour aller compléter un peu notre réflexion, on est allé interviewer Jean-Marie Charron, donc sociologue spécialisé sur les thématiques justement du journalisme et de l'information, chercheur associé à l'EHESS et auteur de nombreux ouvrages sur cette thématique. On l'a interrogé, notamment sur la question de sa réaction à la nomination de Bertrand Delay à la tête de LCP, à qui il est reproché, à Bertrand Delay, sa proximité avec Emmanuel Macron et aussi donc du coup de sa représentation du journalisme utile et du journalisme engagé.
Écoutez, je me demande si on n'est pas un petit peu à contre-temps d'une évolution sur la transformation des rapports entre le public et les médias. C'est vrai qu'on vient en France d'une tradition, d'un journalisme, en gros depuis la Révolution française, qui avait tendance à entremêler, articuler, confondre parfois les fonctions politiques et journalistiques. Et ça nous a donné d'ailleurs toute une tradition de presse d'opinion qui a été florissante sous la Troisième République. Mais en revanche, depuis, on va dire, les années 60-70, on avait l'impression que cette tradition, peut-être sous l'influence de la radio, de la télévision, un certain nombre de projets éditoriaux aussi nouveaux, je pense en presse magazine tels que les news magazines, etc., que c'était davantage la distance, le recul, la capacité de recul, d'interprétation de l'information, et puis de l'équilibre à trouver dans le traitement des sujets qui l'emportait peut-être un peu dans une tradition de type un peu anglo-saxonne. Et puis, une attitude l'objectivité, ce qu'on appelle chez les anglo-saxons. Et puis probablement l'impression aussi que le public était plutôt dans cette ambiance-là et qu'il a été très difficile d'ailleurs pour beaucoup de médias d'opinion. Je pense à en domaine tels que des journaux comme l'Humanité, La Croix, etc., pour pouvoir garder leur public, et même parfois avec un certain nombre de difficultés à les garder, ils ont dû se transformer, devenir beaucoup plus exhaustifs dans leur traitement, beaucoup plus professionnels. Donc il fallait être à la fois professionnel et affirmer un certain nombre de convictions. Et là, on a l'impression depuis quelques mois qu'un certain nombre de projets éditoriaux reviennent sur une conception de la presse d'opinion qui nous paraît un peu rétro, au sens où des partis politiques créer des émanations médiatiques. Hein. Cet été, le parti du président de la République parlait de créer un média. Un parti d'opposition aujourd'hui crée le média. Il est certain que le public aujourd'hui est peut-être un peu saturé d'une information de flux qui est trop superficielle, qui ne met pas suffisamment en perspective, et du coup qui s'intéresse à des projets éditoriaux qui sont beaucoup plus centrés sur des objectifs en matière d'information. Ça peut être l'investigation, ça peut être le reportage, ça peut être toute une série de manières de traiter l'information, les data, etc. Mais ils créent des communautés, ils demandent à leur public d'ailleurs de les accompagner, hein, en les finançant, en étant interactifs avec eux. Mais je crois que c'est un peu différent que cette idée que le politique, de nouveau, essaye de, je dirais, avoir une telle articulation avec les médias. Je pense que le public ne le comprend pas. Je crois que pour prendre la dimension de ce sujet-là, il faut voir que l'information ne joue plus le même rôle dans nos sociétés. Nos sociétés se sont transformées. Pendant très longtemps, c'est vrai qu'on attendait, sur notamment de la presse écrite, hein, et de ces journaux d'opinion, qu'ils nous immergent dans le débat d'idées. Et c'était, je dirais, le rôle principal de l'information. C'était pas le seul, mais c'était celui qui dominait. Et parce qu'on était dans des sociétés où il y avait beaucoup d'autres modes, je dirais, de s'insérer dans les réseaux sociaux, dans la manière de vivre en société précisément. Il y avait le rôle des familles, il y avait le rôle des syndicats, il y avait le rôle des partis politiques, des religions, enfin toute une série de collectifs qui nous permettaient à chacun d'entre nous de partager, de nous renseigner, de nous repérer dans notre vie de tous les jours. Et les médias, bon, pouvaient jouer un rôle, mais c'était, je dirais, un peu un plus. Aujourd'hui, eh bien précisément, on n'a pas du tout la même relation à cette information. La notion justement qui a été choisie par ces assises en parlant d'information utile, c'est précisément parce que l'information est devenue une ressource. Une ressource pour notre vie de tous les jours, que ce soit, je dirais, matériellement, hein, tous nos problèmes concrets de la vie de tous les jours, mais aussi intellectuellement, que ce soit nos problèmes de psychologiques, nos problèmes d'éducation, nos problèmes d'orientation, la manière de nous repérer dans le monde, etc. Et à partir de ce moment-là, nous avons besoin, je dirais, de médias et de journalistes qui sachent, je dirais, nous proposer une information d'abord fiable, une information équilibrée, une information qui nous donne des repères, une information qui hiérarchise les choses. Et quand ces médias se trompent, quand les médias font des contresens, lorsqu'ils sont approximatifs, il faut avoir à l'esprit que c'est vécu comme quelque chose d'extrêmement pénalisant pour les personnes. Alors, tant qu'on était, si vous voulez, dans l'univers du débat d'idées, de la presse d'opinion, tout ça n'était pas très grave, y compris parce qu'on avait un certain nombre de repères, je dirais, dans l'espace politique qui nous permettaient de resituer chacun à sa place. Mais sauf que lorsque le média ou les médias sur lesquels je m'appuie, eh bien, s'ils ne me proposent que ce genre, je dirais, de contenu, eh bien là, j'ai des ressources qui me manquent, quoi. D'où la notion, je pense, extrêmement importante, effectivement, de l'utilité. Il peut y avoir de très nombreuses formes d'engagement. Là, en l'occurrence, les formes d'engagement s'élargissent et se rapprochent, me semble-t-il, justement, de cette question de l'utilité. De la même manière que en Amérique du Nord, alors ça n'a pas beaucoup prospéré chez nous, mais L'une des formes d'engagement qu'on a vu apparaître, on appelait ça le public journalisme, et notamment c'était plutôt un journalisme local, et bien lorsqu'il y avait des problèmes locaux qui se posaient, que dans la communauté un certain nombre de points de vue n'arrivaient pas à s'entendre, et bien le journalisme, par son mode de traitement de ces questions-là, pouvait aider à la résolution et à trouver peut-être des consensus, quoi. Je crois que finalement, ce qu'on découvre, ce que l'on vit, on ne le découvre pas, mais ce que nous vivons en ce moment, c'est effectivement une double, je dirais, orientation, une double polarisation peut-être dans l'organisation de l'information. C'est vrai que d'un côté, nous avons des très grands médias qui fédèrent de très grosses audiences et qui vont davantage être certainement ceux qui vont nous apporter les repères dans l'identification de ce qui se passe dans l'actualité. Des problèmes qui nous concernent de près ou de moins près se produisent, eh bien, ils nous les pointent, ils nous les identifient. Et c'est important, effectivement, que sur tous ces sujets-là, il y ait ces grands médias fédérateurs. Mais je pense que ce qui est très important et qu'on voit se développer aujourd'hui, c'est qu'il y a des projets éditoriaux, des approches en matière d'information qui, au contraire, vont davantage cibler des publics en fonction de ce que sont leurs préoccupations, ce que sont leurs affinités et ce que sont les problèmes qu'ils rencontrent. Et c'est assez intéressant de voir que, de ce point de vue-là, le numérique est assez adapté, je dirais, est assez flexible pour permettre précisément peut-être de penser des projets qui auraient été difficiles à réaliser en radio, en télévision, en presse écrite, parce que le modèle économique de ces médias-là demandait justement d'atteindre des tailles de public importants.
Alors, interview assez dense, assez riche, beaucoup de thématiques abordées, mais pour commencer ce débat sur le plateau, j'avais envie de vous demander, Anaïs, Maëva, en quoi, selon vous, justement, ces nouveaux médias, ces nouveaux usages de l'information, notamment liés à Internet, ont pu influencer vos représentations de l'information utile et ou engagée ?
Je pense que, par rapport aux réseaux sociaux, hein, pour commencer, ça a beaucoup changé le regard qu'ont les utilisateurs sur l'information utile, parce que c'est sur les réseaux sociaux que les choses vont très très vite et que les choses n'ont pas le temps d'être vérifiées assez souvent. Je pense que les gros débats, on va en parler plus tard aussi avec les fake news, passent énormément par les réseaux sociaux et que du coup il y a ce gros facteur là qui fait, j'ai entendu d'ailleurs très récemment à la radio quelqu'un parler des médias sociaux et plus des réseaux sociaux. Je pense que c'est très révélateur de ce que c'est en train de devenir. Et je pense que là, on touche un gros point.
Mais surtout, je trouve que ça peut être assez inquiétant, surtout tout ce qu'on voit sur, par exemple, le mur d'actualité Facebook. Il y a de plus en plus de pages qui disent faire du journalisme en justement donnant des informations comme ça, avec des titres assez chocs. Il y a beaucoup de jeunes qui utilisent ces réseaux-là et certains ont l'intelligence de se dire je fais attention, c'est Internet, on m'a toujours dit Internet c'est dangereux, ça peut l'être, et d'autres au contraire qui vont droit dedans et qui d'un seul coup partagent cette vidéo, et c'est comme ça que justement cette rapidité arrive. Et oui, ça, les nouveaux médias peuvent être une difficulté pour le journalisme, comme justement pour passer à un autre domaine, les podcasts, peut au contraire être aussi l'avenir du journalisme. Je suis une grande consommatrice de podcasts. J'écoute assez rarement la radio en direct, sauf dans ma voiture. Je marche beaucoup et donc c'est assez simple de télécharger un podcast et d'écouter tout en faisant autre chose, tout simplement.
Alors, cette différence entre vraiment distinction entre les réseaux sociaux et les médias, moi il me semble que c'est central. Les dernières recherches montrent bien que les gens continuent à avoir confiance dans les médias traditionnels qui diffusent de l'information sur les réseaux sociaux, entre autres sur Internet en général, et que ça reste quand même une valeur de référence pour pouvoir juger de la véracité ou pas d'une information. Et en même temps, moi je trouve que là où ça a l'impact, par contre, les réseaux sociaux le plus dérangeant, c'est surtout sur les formats qui sont utilisés. C'est vrai que les réseaux sociaux favorisent les formats très courts qui ne permettent pas le traitement de l'information dans la profondeur. Moi, c'est peut-être ça qui m'alerte le plus à l'heure actuelle dans la manière dont t'es diffusée l'information. Du coup, ça va polariser un peu les les contenus, favoriser la diffusion d'idées auprès des gens qui sont déjà sensibilisés à certaines thématiques, éviter peut-être que ça se diffuse et en même temps pas les inciter à aller creuser peut-être l'information.
Mais en ce qui concerne par exemple les grands médias qui sont déjà instaurés et qui se créent des pages ou qui diffusent justement certains de leurs articles sur les réseaux sociaux, qui pour le coup ont des phrases d'accroche, ont des bouts d'articles d'accroche, je trouve ça, ça peut avoir un côté positif, que je reviens encore à la jeunesse, c'est pour les jeunes qui se baladent beaucoup sur Internet, qui vont voir apparaître ces pages-là, ils peuvent s'abonner à ces pages-là et petit à petit se dire « Ah tiens, bah, je vais cliquer sur ce bout, cette phrase d'accroche-là parce que ça m'intéresse » et se retrouver justement sur des sites et se dire « Ah mais ce journal-là finalement c'est bien, ça m'intéresse ». Bah tiens, et un jour ils vont marcher dans la rue et les croiser justement ce journal papier là et se dire tiens je vais l'acheter, ça peut amener. Après il faut que ce soit bien fait et fait intelligemment, comme ce que tu disais juste avant.
Je pense que ça rejoint aussi ce dont on parle un peu en ce moment, de revenir à du slow journalism comme on dit, qui est quelque chose aussi d'assez je vais encore utiliser le mot de pléonasme, mais en fait, c'est le slow journalism, c'est le journalisme qu'on devrait faire, ou que les journalistes devraient faire tout le temps, en fait, quelque chose d'approfondi, de chercher, de format un peu plus long, mais il y a toujours cette question un peu en flottement aussi que l'information est en tout cas à l'heure actuelle, dans la société dans laquelle on est, c'est un produit, et qu'un produit c'est quelque chose qui se vend et donc qui s'achète, et du coup il y a cette problématique là qui est peut-être moins présente sur le web ou présente différemment sur Internet, parce qu'il y a eu beaucoup de choses gratuites et qu'on est revenu vers des systèmes payants ensuite, qu'il a fallu réhabituer les gens à dire bah, en fait une information de qualité c'est quelque chose qui se paie. Et il y a aussi voilà, cette question-là que je trouve intéressante, de revenir vers du journalisme un peu plus long, un peu plus lent et plus approfondi, et qui, ouais, qui aille dans de l'investigation, enfin en fait dans ce que c'est que le journalisme, si on revient à la toute base de ce qu'on doit faire dans le journalisme ou pas.
Oui, en effet, une information utile, c'est forcément une information qui est travaillée sur la longueur, sur le temps, qui prend qui se donne les moyens d'être complète et approfondie. Après, ça pose la question aussi de comment est-ce que on s'assure qu'une information utile reste accessible à tous. Mais ouais, c'est un peu le questionnement. Et là où je trouve que les réseaux sociaux peuvent justement être une richesse, c'est qu'elles peuvent permettre de rendre accessible. Alors après, de quelle manière et sous quelle forme, c'est une autre question encore. Mais voilà, de permettre d'essayer de faire en sorte au maximum que l'information utile reste accessible à tous. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Ah non, je suis totalement d'accord. C'est quand même une grande importance, surtout que maintenant... C'est connaître l'actualité, faire connaître l'actualité, c'est la base du journalisme, et faire connaître l'actualité à tous. Et les réseaux sociaux peuvent aider à ça, justement, parce que maintenant, quasiment tous les foyers ont un accès Internet, ou du moins peuvent avoir un accès Internet dans leur ville ou dans leur village. Et justement, ça, à mon avis, c'est un des meilleurs moyens qui peut être mis en place. Après, trouver comment et travailler ça avec chaque équipe.
Oui, il y a plein de choses à continuer d'inventer, je crois, sur Internet et via toutes les possibilités que ça offre. Et puis, je suis assez d'accord avec toi qu'il y a ce gros challenge-là il faut faire de l'information, il faut relater de l'information qui soit accessible à tous, et comment on fait ça. Et je trouve que c'est un des plus beaux challenges du journalisme, à la fois dans l'accessibilité en termes d'économie, combien on paye, mais aussi en termes de langage, comment on écrit l'information pour que justement elle soit accessible à tous, et en même temps qu'elle aille assez profondément dans les choses pour qu'elle soit utile.
Le gros problème du financement, quoi. Oui. Ça reste le gros problème. C'est comment financer toutes ces actions et sans faire payer justement les consommateurs.
Mais je crois qu'il... Pardon, vas-y, je t'en prie.
Il y a la question du financement, en effet, mais il y a aussi la question de l'usage et de la sensibilisation aux usages des médias. Comment est-ce que est fabriquée l'information, comment est-ce que... Quelles ressources elles sont nécessaires pour arriver à faire une information de qualité et que les gens... D'où l'intérêt notamment des ateliers de sensibilisation à la fabrique des médias, parce qu'on est beaucoup plus facilement prêt à payer pour cette information et à aider à son financement, à sa contribution, quand on sait comment elle est fabriquée, quels besoins il y a derrière. Et à ce moment-là, c'est peut-être plus facile d'amener les gens à débourser pour un abonnement, pour une parution qui leur parle.
Ouais, je crois qu'on touche quelque chose d'important là, qui est comment on sensibilise les gens au fait que pour sortir un papier d'investigation qui a été fouillé, ça prend du temps et ça prend énormément d'argent. Et en fait, on s'en rend pas trop compte. Et hier, il y avait du coup un des débats hier qui revenait sur l'étude faite par Via Voice pour les assises du journalisme, où donc 92% des Français estiment que c'est un métier utile, que le journalisme est un métier utile. Et par contre, moi, j'ai trouvé ça très très étonnant, mais 49% des personnes ne sont pas d'accord avec l'affirmation « une information de qualité se paie, elle n'est pas gratuite ». C'est énorme, je trouve ça vraiment beaucoup que quasi la moitié des personnes interrogées ne considèrent pas qu'une information de qualité doit se payer.
Je trouve ça affolant, bien sûr, mais je trouve que ça va aussi avec l'idée que maintenant l'information est ancrée dans le quotidien de tout le monde. Et que comme c'est ancré dans le quotidien, ce qui est très bien, mais comme c'est ancré dans le quotidien, c'est devenu normal pour eux d'y avoir accès.
Après, je pense qu'il y a une double manière de lire, enfin, bon, il y a deux manières de lire cette situation et d'entendre ce chiffre-là. C'est est-ce que l'information doit obligatoirement se payer ou est-ce que l'information a obligatoirement un coût ? Ce qui n'est pas la même chose. Que l'information est un coût pour être produite, évidemment. Mais après, le fait qu'elle soit payante, est-ce qu'il est normal que le fait qu'elle soit payante soit un frein à l'accès à l'information pour tous ? Ça, c'est un autre débat.
Ouais. Je crois pas.
Je pense que dans la formulation de la question, dès le départ, il y avait peut-être un biais de formulation.
Oui, ouais, c'est vrai.
Alors, par la suite, à nouveau hier, nous avons interviewé avec le Club de la Presse Noël Mamère, ancien député candidat des Verts à l'élection présidentielle de 2002 et journaliste. Il a aussi participé à la création de Le Média, Web TV fondé par les proches de Jean-Luc Mélenchon et dont il a récemment démissionné.
Je ne me suis pas laissé intimider par les critiques qui disaient « c'est la télé de Mélenchon ». J'ai cru à la bonne foi de ceux qui sont venus me chercher. Et je n'ai pas vu qu'il s'agissait de la télé de Mélenchon jusqu'à cette histoire de la Syrie. Et puis, je pensais qu'il était... pour moi, c'était à titre personnel intéressant parce que je renouais avec la partie la plus sympa de mon métier de journaliste qui consiste à faire découvrir des auteurs, philosophes, sociologues, économistes qu'on n'entend pas dans les grands médias, dans les médias mainstream. Et puis, moi, de découvrir ces gens-là aussi. Mais je pensais que c'était un lieu qui pouvait être intéressant, notamment pour aller vers ce qu'ils appellent les sociaux et pour leur faire découvrir ce qu'est la complexité et la force de la pensée de l'écologie politique. Bon, ça, je le ferai peut-être ailleurs, capoté et je le regrette vraiment. Le Média, c'est derrière moi maintenant, ça y est, cette histoire, elle s'est mal terminée, pour ce qui me concerne. Deux choses ou trois choses que je peux dire. Un, j'ai pu procéder aux interviews que je faisais tous les mardis soirs en toute liberté, sans aucune censure, sans aucune contrainte. Je regrette d'avoir été contraint de les abandonner, non pas sur ordre, mais par ma décision, parce que je n'ai pas accepté la brutalité avec laquelle Aude Rossigneux, qui était la rédactrice en chef ou la coordinatrice de la rédaction, la brutalité avec laquelle elle a été évincée. Et puis, pour des raisons politiques, puisque je ne peux pas être d'accord avec la présentation qui a été faite du conflit syrien établissant une sorte de parallèle entre Bachar el-Assad et ses opposants. Et ça a été la goutte qui a fait déborder le vase. Donc j'avais expliqué à Gérard Miller que j'avais 4 interviews en boîte et que je les diffuserai jusqu'à fin mars et que je partirai. Mais quand j'ai vu ce plateau, cette analyse de la Syrie, je l'ai rappelé en lui disant non seulement je resterai pas jusqu'en mars, mais je partirai dès mardi prochain. Voilà. On nous a fait croire que cette télé, Le Média, était un média qui n'était pas soumis à la France insoumise. Et malheureusement, ce qui a été dit sur la Syrie, c'est exactement ce que défend la France insoumise, notamment sous l'influence de son chargé des relations internationales, qui a toujours défendu une position pro-russe dans le conflit syrien. Moi, en tant que politique, j'ai combattu cette position. Je n'allais pas, maintenant que je ne suis plus en vitrine politique, comme journaliste, me laisser cautionner ce type d'analyse. D'autant que mon interview, elle se développait à l'intérieur du journal. Donc je me sentais, à juste titre, engagé par ce qui se disait dans ce journal. Vous pouvez être un homme ou une femme engagé, mais vous regardez le monde avec un certain regard, qui est celui de votre engagement. Mais si vous en avertissez les citoyens, je ne vois pas au nom de quoi vous seriez pire que les autres. Et puis vous avez des journalistes qui se disent non engagés et qui ne font que véhiculer le modèle dominant. Et un journaliste engagé, c'est un journaliste qui est engagé pour produire tous les jours de la citoyenneté active. C'est-à-dire faire en sorte que les citoyens ne soient pas abusés par des menteurs, par des marchands d'illusions, des marchands de vérité, qui soient capables de faire la part des choses. Mais c'est pas le journalisme qui est le seul à pouvoir créer de la citoyenneté active. C'est d'abord l'éducation, et que l'éducation aille partout, dans tous les quartiers, qu'on ne laisse pas des quartiers laissés pour compte. Que va faire le jeune de banlieue qui se considère comme méprisé et humilié? Eh bien, il va aller sur les réseaux sociaux pour se conforter dans ses préjugés et dans ses tabous et dans l'idée qu'il se fait du monde, de ce monde qui ne veut pas de lui et qu'il perd l'estime de soi. Quand on perd l'estime de soi, on a la haine. On a la haine de soi et la haine des autres. Ben, le journalisme, ça doit aussi contribuer à extirper ce poison de l'esprit des gens.
Une dernière question sur l'écologie. Pour vous, quelle est la place de l'engagement journalistique dans ce thème-là, justement? Parce que c'est quand même une des actualités.
Je suis effectivement écologiste. Par exemple, quand j'étais aux médias, j'essayais de faire découvrir des penseurs de l'écologie, des gens qui ont un regard sur le monde à partir de l'écologie. Ben, l'écologie, elle est transversale. Donc, il n'y a pas un journaliste qui fait bien son boulot. Bah, il doit expliquer pourquoi on produit tant de déchets, il doit expliquer pourquoi on fabrique des objets qui s'usent prématurément, ce qu'on appelle l'obsolescence programmée, et expliquer pourquoi aujourd'hui 1% de la planète pollue plus que 50% du reste du monde.
J'ai une question par rapport au moment où vous étiez à Europe Écologie Les Verts, où vous auriez eu peut-être l'occasion de créer un média
oui.
À ce moment-là. Pourquoi est-ce que vous l'avez pas fait? Et est-ce que vous y avez pensé? Est-ce que vous en avez eu l'envie ou de faire quelque chose qui se rapproche du média, qui soit mais qui soit pas?
Moi, j'étais très occupé par mes fonctions de maire et de député. Mais votre question est très juste. On a raté le coche à plusieurs reprises sur plein de sujets. La preuve, aujourd'hui, l'écologie est une préoccupation majeure des Français. Et politiquement, nous sommes incapables de la porter. C'est notre responsabilité première. Et nous n'avons jamais vraiment pensé, ce qui veut dire qu'on était vraiment dans l'ancien monde, d'une certaine manière, à créer un média un peu moderne. Alors aujourd'hui, ELV y pense. Et nous pensons même, d'ailleurs, depuis cet épisode des médias, les copains d'ELV, dont je ne suis plus membre, mais je suis toujours proche d'eux, me disent pourquoi on ferait pas la même chose, mais avec ELV et en créant une petite chaîne sur YouTube. On va y réfléchir.
Alors, suite à cette interview, Maëva et Louise, j'aurais une petite question pour vous. Selon vous, quelle est la place donc, de l'engagement politique dans le journalisme et doit-il y en avoir une réellement?
Je te laisse commencer. Tu as fait partie de Radio Insoumise, dans lequel tu n'es plus maintenant. Peut-être que ton expérience peut parler bien et répondre correctement à cette question.
Vaste, vaste question. Ça revient un petit peu à ce que je disais au départ, hein, la différence vraiment entre journalisme engagé et journalisme militant. Je pense vraiment, fondamentalement, et notamment au regard de mon expérience chez Radio Insoumise qui se termine, alors j'y suis encore pour quelques jours, le temps de finaliser les projets en cours, mais que j'ai décidé de quitter, qu'il est extrêmement compliqué de faire vivre une indépendance de rédaction quand on est engagé politiquement. Véritablement, je pense qu'on peut défendre des idées, on peut défendre des programmes, mais il y a un problème qui est de l'ordre de la posture. Est-ce que quand on est vraiment militant, on est dans une posture vraiment réflexive par rapport au message que l'on essaye de transmettre, ou est-ce qu'on est dans une posture où on, quelque part, on, je vais caricaturer un peu, mais on assène une vérité. Quand on est militant, on est vraiment dans l'envie de convaincre. Mm-hmm. Or, il me semble vraiment, et au regard de cette expérience chez Radio Insoumise, où j'ai pu me mettre en posture de journaliste, que c'est la posture inverse que l'on adopte quand on est journaliste, où on est en train de cultiver le doute. Alors, le doute constructif, hein, le doute dans le but de rester tout le temps au plus proche de la vérité, de la réalité. Mais il me semble que ces deux postures-là ne sont pas très compatibles.
Complètement d'accord avec toi, ouais, que le journalisme et militant, ça me paraît deux choses qui sont assez dures à mettre en œuvre ensemble. Enfin, tu l'as très bien expliqué, je crois que je ne vais pas pouvoir l'expliquer mieux que toi. Et que ce qui me paraît par contre important, c'est d'être journaliste et engagé. Ça me semble pour le coup plus compatible de pouvoir... Se battre pour un journalisme dans lequel on croit et qui est différent de travailler pour un journalisme qui est affilié à un parti ou de près ou de loin, hein, comme peut l'être Radio Insoumise ou comme peut l'être Le Média, hein, de ce qu'on en a vu dans l'expérience de ce qu'est ce média, justement. Mais ouais, je crois que c'est vraiment quelque chose qui est difficile de mettre en place, enfin de concilier quoi, d'être journaliste et d'être militant, ou alors en même temps, je veux dire, quand on écoute Radio Insoumise aussi, on sait ce qu'on écoute. Je veux dire, pour le coup, c'est hyper transparent. Voilà, on est sur Radio Insoumise. Donc quand c'est transparent comme ça, il y a aussi ce côté-là de bon, on sait où on est. Donc ça peut être aussi intéressant de prendre les informations qu'on nous donne en sachant très précisément que ça vient d'une radio qui est affiliée à un parti et donc on n'est pas leurré ou dans nulle part. Voilà, c'est pas comme si la radio s'appelait autrement et qu'on sait pas trop où on est, mais on sent bien quand même un peu que c'est une radio qui est militante. Et donc peut-être qu'il y a aussi ça qui est intéressant de... Il y a des choses à prendre quand on sait ce qu'on lit et qu'on le sait voilà, de manière transparente d'où ça vient et qu'on sait d'où les gens parlent, pour reprendre une formule bien connue. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de ton côté, Anaïs ?
Moi, je trouve ça me révolte, en fait. Je me dis que je ne comprends pas pourquoi un média devrait être créé par un parti ou affilié à un parti. Je ne pense pas que ça devrait exister, tout simplement parce que la politique, ce n'est pas du journalisme. Et, enfin, les deux ne se complètent pas. Elles doivent avancer ensemble, entre guillemets. Non. Et pour reprendre en plus la fin de l'interview là de monsieur ma mère. Quand il parle justement que les Verts ont raté le coche, ou qu'ils en pensent, ou que le parti de Macron aussi y pense, je ne sais pas, mais c'est pas, le journalisme n'est pas à la place des politiques.
En fait, ce qui est inquiétant aussi dans ce que tu dis, si je peux rebondir là-dessus, c'est que de créer des médias qui sont affiliés à des partis, ça va encore plus brouiller la frontière entre qu'est-ce qu'est de la communication et qu'est-ce qu'est du journalisme. Et où pour le coup, ouais, là, on va être complètement perdu entre qu'est-ce qui relève de la communication du parti qui est faite à travers ce média qu'ils ont créé, ou qu'est-ce qui relève du journalisme, parce que on arrive quand même à se détacher ou pas. Est-ce que toi, t'as senti que t'étais vraiment affilié au Parti Insoumis, ou est-ce que tu...
Non, pas du tout, parce que l'expérience Radio Insoumis, c'est une expérience qui est très particulière quand même, hein, alors qui rejoint vraiment l'idée du journalisme issu du peuple, hein, puisque c'est une émanation des militants. C'est pas du tout une création du parti, mm-hmm. enfin du mouvement La France Insoumise. C'est vraiment une émanation des militants de terrain qui, un peu par hasard, c'est quelque chose qui est né parce qu'il y avait des militants en fait qui étaient gamers, qui se sont retrouvés sur Discord, qui se sont rendus compte qu'ils étaient tous militants pour la France Insoumise, qui ont décidé du coup de se créer un Discord. Alors pour les gens qui ne connaîtraient pas Discord, c'est une plateforme virtuelle de communication du coup de se rejoindre sur ce Discord juste pour échanger de la France insoumise. Et donc ils avaient des salons de débats vocaux et à force de débattre tous ensemble sur le Discord, ils se sont dit que ce serait peut-être intéressant de s'enregistrer et de diffuser, de streamer leurs échanges et leurs débats sur le Discord insoumis. Et c'est comme ça que la radio est née. Donc c'est vraiment quelque chose qui a émané du terrain et vraiment pour le coup, les membres de la radio insoumise n'ont jamais aucun contact avec les membres de la France insoumise. C'est, voilà, ça s'appelle Radio Insoumise parce que c'est la radio des militants de la France Insoumise. Mais pour le coup, je peux dire clairement que la rédaction de Radio Insoumise est complètement indépendante du mouvement politique de la France Insoumise. Mais malgré tout, ils se sentent la mission de véhiculer les idées du programme L'Avenir en Commun qui est porté par la France Insoumise. Ils sont pas là pour porter un projet de média. Voilà. Alors, je pense que certains vont pas être très contents de m'entendre dire ça. Je le dis vraiment en tant qu'ex-participante de la France Insoumise. Ça n'engage que moi. Mais je pense que c'est vraiment ça. C'est vraiment la question de la posture par rapport au savoir, de quel est l'objectif du média qu'on porte, et aussi une question de connaissance de ce qu'est un média, de ce qu'est le boulot de journalisme, je pense, derrière, fondamentalement.
Et ça pose aussi surtout la question de l'objectivité, tout simplement, qui est la base du journalisme. C'est comment, en étant affilié à un parti ou membre soi-même d'un parti, peut-on parler de n'importe quels événements en ayant un point de vue le plus objectif possible, si déjà notre point de vue est à 90% subjectif. C'est compliqué.
C'est compliqué, en effet. Après, l'objectivité,
c'est un concept assez
trois petits points, c'est quelque chose qui n'existe pas. Qui n'existe pas dans
mais
le journalisme.
Il faut essayer de tendre vers...
Ouais, je crois. Enfin, ce qui tourne, on parle un peu d'honnêteté journalistique maintenant, plus que d'objectivité, parce que ça a été très longtemps cette idée de voilà, il faut être objectif, mais bon, on se rend bien compte que ça n'existe pas et que peut-être être honnête, c'est. Je te vois.
Ouais, on s'en rend bien compte. Je pense quand on est sensibilisé à la thématique, c'est vrai que c'est remis en question depuis quelques années, mais on voit bien aussi que dans les médias mainstream entre guillemets. Il y a quand même toujours en fond quand même cette idée qui est véhiculée que on parle de manière objective ou on ne dit pas franchement que sur les chaînes pluralistes on est quand même dans une vision qui sera libérale. Voilà, c'est pas affiché comme ça, on revendique une certaine objectivité alors qu'on est clairement dans des médias qui sont orientés dans une certaine représentation, dans une certaine vision du monde.
C'est vrai. Peut-être que ça permet de rebondir sur les devoirs du journaliste et des journalistes. On a pu interviewer hier Vincent Lanier, qui est premier secrétaire général du SNJ, qui est le syndicat national des journalistes. Donc il est en fonction depuis 2014. Il est aussi journaliste. Et donc le SNJ défend les droits des journalistes. Et cela suppose aussi des devoirs. Donc on s'est demandé et on a demandé à Vincent Lanier quels sont ses devoirs en ce qui concerne le journalisme utile, qui est le thème des Assises 2018.
Les devoirs, ils sont toujours les mêmes, quel que soit le journalisme, finalement. C'est un devoir d'honnêteté. Principalement, c'est ça, c'est un devoir d'honnêteté, de respect des fondamentaux du journalisme. Alors, bon, moi, je suis un peu gêné avec cette histoire de journalisme utile, parce que ça voudrait dire qu'il y a aussi un journalisme inutile. Ce qui n'est pas forcément faux d'ailleurs, mais c'est pas très facile à délimiter le journalisme utile. Moi, je suis assez content quand même du sondage qui est paru à l'occasion des Assises, qui fait dire qu'il y a une grande majorité des gens qui ont été sondés. Ils considèrent que le journalisme est utile, notamment par tout ce qui est de journalisme d'investigation. Et par la fonction de décryptage qui va forcément être quelque chose qui va se développer dans les prochaines années, justement par rapport à ce phénomène des fake news. Et d'ailleurs, nous on pense que la solution, c'est plus aux journalistes de décrypter l'info qu'à l'État de couper les tuyaux pour faire en sorte de bloquer des informations qui seraient fausses ou dont il faudrait démontrer qu'elles soient fausses. Le combat principal, il n'est pas tellement sur les fake news. Le combat principal du syndicat et de la profession, enfin qui devrait être celui de la profession, c'est de faire en sorte d'améliorer l'indépendance des rédactions. Et c'est ce qui manque dans le projet de loi, puisque c'est un projet de loi qui parle de confiance dans les médias. Et on sait qu'il y a une défiance malgré tout du public envers une bonne partie des médias, à juste raison dans certains cas. Et il faut absolument trouver un moyen d'améliorer l'indépendance des rédactions, puisque beaucoup de journalistes travaillent dans des rédactions qui appartiennent à des milliardaires, des industriels. Et alors ils sont pas pour autant aux ordres de ces industriels et de ces milliardaires, mais il faut absolument qu'il y ait des frontières étanches entre la rédaction et l'actionnaire et les annonceurs. Et c'est pas toujours le cas, et c'est de moins en moins le cas. Mais c'est une préoccupation qui a 100 ans, parce que si on lit la charte d'éthique qui a été l'acte fondateur de création du syndicat il y a 100 ans, ça fait déjà partie des préoccupations de dire qu'un journaliste ne doit pas confondre l'information et la communication, etc. Donc tout ça, on est toujours sur ces basiques, quoi. C'est indépendance des rédactions, et ce sera le meilleur moyen de lutter contre les fake news. Et l'indépendance des rédactions, ça passe aussi par la lutte contre la précarité, parce que la profession aujourd'hui elle est précarisée de façon extraordinaire, et c'est un vrai frein à l'indépendance des journalistes. Nous, on a un projet assez ancien qu'on essaye de pousser, mais qui n'a jamais été pris en compte, parce que c'est du législatif, donc il faut qu'à un moment donné des politiques s'en emparent. C'est de créer un statut juridique des équipes rédactionnelles qui donne des moyens juridiques aux rédactions constituées de se bagarrer contre la décision d'un actionnaire, par exemple, qui serait un Bolloré qui voudrait virer la moitié de la rédaction, quoi. C'est ce qu'on peut appeler, des fois, ce qu'on a pu appeler aussi la clause de conscience collective. En fait, la clause de conscience qui existe aujourd'hui, elle permet aux journalistes de partir. Et la clause de conscience collective, elle permettrait à l'ensemble de la rédaction de rester et de se bagarrer contre l'actionnaire qui ferait n'importe quoi.
Le statut des pigistes, justement, qui est une des questions d'actualité aussi, qu'est-ce que vous comptez faire justement pour cette partie de la profession ?
Alors je rectifie, puisque ça c'est une fake news qu'on fait souvent passer. Il n'y a pas de statut des pigistes, ça n'existe pas, c'est un mode de rémunération. Les pigistes, de par la loi, sont salariés, en tout cas devraient l'être. Alors maintenant on sait qu'il y a une grosse tendance dans la presse qui est une forme de contournement du salariat avec les auto-entrepreneurs, le paiement sur facture, etc. Ce qui fait perdre tous leurs droits. Parce que vous êtes payé sur facture, vous aussi ?
Non, je ne suis pas payé sur facture, mais je cherchais ce terme-là. En fait, on utilise de plus en plus le paiement sur facture. Enfin, à la fois les journalistes, à la fois les rédactions, on l'utilise de plus en plus. Et au détriment, du coup, des protections qu'offre la pige, parce qu'on est en CDD quand on est pigiste. Quoi.
Bah, du coup, si on accepte de se faire payer en facture, on n'est plus couvert par la convention collective. Ouais. Et tout ce qui a fait que le journaliste a un statut assez protecteur qui date de 35, et on se déconnecte nous-mêmes de nos droits, quoi. Donc et nous on se bat contre ça parce que c'est une forme d'ubérisation de la profession, on l'a dit souvent, et c'est extrêmement dangereux. Et là, comment parler de qualité de l'information, d'indépendance, si on a des gens qui sont en fait une catégorie de plus ou moins de sous-salariés qui sont en fait pas salariés et qui n'ont plus aucun droit. Enfin, ça devient on fait tomber complètement le statut protecteur des journalistes. Or, s'il y a un statut protecteur qui existe, à un moment donné, c'est parce qu'il y a des parlementaires qui ont dit que c'est un métier qui n'est pas tout à fait comme les autres. On peut être soumis à des pressions importantes, il y a un enjeu particulier. Voilà, il y a un enjeu qui derrière, qui est une information de qualité au service du citoyen pour la démocratie, finalement. Et la ministre tout à l'heure a dit qu'on était des vigies de la démocratie. Bon, c'est un peu pompeux, hein, on peut se dire, mais quand on bosse dans son petit journal, tous les jours, on se dit pas qu'on est forcément une vigie, hein, mais il n'empêche que c'est assez vrai quand même, quoi. C'est assez vrai quand même.
Du coup, l'information utile, comment on la définit ? Qu'est-ce qui est une information utile ?
Et qu'est-ce qui est une information inutile, pour le coup ? Ça, je trouve la question beaucoup plus intéressante dans ce sens-là.
Bah, une information inutile est de moins en moins utile aujourd'hui. Je pense que c'est tout ce qui est de l'ordre de l'information-service, un petit peu. Alors, c'est toujours utile, on va dire, pour de donner les horaires du cinéma, mais c'est une information quand même. Son utilité, elle est de moins en moins évidente. En tout cas, c'est de moins en moins évident que ce soit aux médias de donner ce type d'information. Et d'ailleurs, ça part sur les réseaux sociaux, etc. Il y a tout un tas d'informations institutionnelles qui finalement échappent aux médias. Et c'est peut-être pas un mal, en fait. C'est peut-être pas un mal. Après, moi, j'aime bien la définition qui a été donnée finalement par le sondage. Hein. Le journalisme utile, c'est le journalisme d'investigation et le journalisme de décryptage, voilà, d'explication. Après, voilà, y a aussi du mauvais journalisme. Celui-là, il est forcément inutile, quoi. Je pense que les journalistes devraient être, ce n'est pas forcément le cas, et c'est gênant souvent, devraient être des militants de leur propre métier. Et je pense qu'au SNJ, on a une culture assez forte là-dessus. Voilà, des militants de leur propre métier, des militants de la liberté de la presse et de l'indépendance, etc. Et trop souvent, malheureusement, on a des gens soit qui ont baissé les bras, soit qui n'ont pas conscience de la chance qu'ils ont de faire ce métier et du devoir qu'ils ont finalement, parce qu'on a des droits, on a des devoirs. Ça a toujours été comme ça, il faut que ça continue. Et je pense que c'est important qu'on ait des journalistes qui soient... On peut être journaliste et militant, mais c'est important d'être militant de son métier.
Alors on disait au début de l'émission qu'on voulait, toutes les trois, on était assez d'accord de dire qu'on séparait militantisme et journalisme. Là on entend Vincent Lanier qui nous dit que c'est important d'être militant du journalisme. Alors Anaïs et Louise, qu'est-ce que vous pensez que c'est être militant du journalisme ?
Commencer par faire des sujets sur la précarité des journalistes, par exemple. Voilà, je pense que ça, c'est être militant pour son métier. C'est être engagé, en tout cas, pour son métier, montrer la réalité des conditions d'exercice des journalistes. Essayer de montrer aussi ce que c'est que l'indépendance du journalisme. C'est un mot qu'on entend régulièrement, dont on sait quelle est la substance quand on est journaliste, mais je pense qu'il échappe encore pour beaucoup au grand public. Voilà, être indépendant quand on est journaliste, est-ce que c'est possible quand on est un grand précaire ? Est-ce que c'est possible quand on ne travaille que à la pige ? Est-ce que c'est possible quand on ne maîtrise pas son outil de production ? Voilà, toutes ces questions-là qui sont au cœur du métier et dont on entend au final très peu parler dans les médias.
C'est aussi d'être solidaire tout simplement avec tous ceux qui font partie de ce métier-là. C'est ne pas vouloir parler que aux grands journalistes connus, c'est aussi aller voir ceux qui galèrent, tout simplement, avoir conscience qu'il y en a qui galèrent aussi, les entendre, les écouter, les faire reconnaître aussi, que ce soit au public ou aussi dans le milieu journalistique. Pour moi, c'est ça, c'est surtout la solidarité et comme tu disais justement, parler du journalisme et des difficultés et aussi du bonheur qu'on peut avoir à faire ce métier-là. Il y en a.
Oui, c'est beau. C'est beau. C'est vrai. Mais oui, il y a aussi du bon à être journaliste. Et encore une fois, c'est ce qui était révélé dans l'étude via Voice qui a été faite pour les assises du journalisme, que c'est un métier qui est à la fois très, très critiqué et qui est quand même regardé comme quelque chose d'important quand même. Et ouais, du coup, de mon côté, être militant du journalisme, je pense que c'est ce que disait Vincent Lanier, c'est important d'être solidaire et de refuser, par exemple, les contrats où on n'est payé pas payé à la pige, mais où on est payé sur facture, qui est quelque chose de qui est pas forcément évident, parce que si je me trompe pas, la rémunération est meilleure comme ça qu'à la pige, mais sauf que ça participe de la destruction, mais c'est un peu fort, mais en acceptant ces contrats là on passe à côté de toute la protection qu'il y a et qui existe pour les journalistes, et en continuant d'aller dans ce sens là on va accélérer le fait que la pige ne devienne plus le moyen de rémunération avec tous les droits qu'il engendre. Et en même temps, je te rejoins sur le fait que c'est difficile. Et encore une fois, c'est un très beau challenge, je trouve, dans le journalisme, d'être indépendant, sachant que c'est un métier. Ça veut dire qu'on gagne notre vie sur ce qu'on produit et que, à partir de là, faire des. Enfin, on revient toujours un peu à cette même question. J'ai l'impression de. Ben voilà, comment on vit de quelque chose qu'il faut qu'on vende et qu'il faut qu'on vende à des rédactions ou si on n'est pas. Enfin, si on travaille à la pige ou. Et c'est quelque chose qui n'est pas évident. Mais pour te rejoindre aussi, c'est ça que je trouve beau dans le journalisme et que je trouve intéressant, que c'est un challenge à relever et que, ben voilà, on est là pour ça.
Alors moi, je pense que dans les challenges de la militance pour le statut des journalistes, il y a un gros, gros challenge. C'est celui de prendre conscience aussi que refuser des contrats sous-payés ou pas payés de la bonne manière, etc., c'est extrêmement compliqué quand, à l'heure actuelle, on voit combien sont rémunérés les journalistes, que la plupart d'entre eux ont du mal à boucler les fins de mois, voire n'arrivent pas à en faire leur activité principale. Enfin voilà, quand on voit le nombre de cartes de presse sur la totalité du nombre de personnes qui pratiquent le métier de journaliste, voilà. Ça, je pense que dans la militance pour la reconnaissance des droits des journalistes, c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on prenne en compte. On ne peut pas se contenter de ça. On ne pourra pas sauver le statut de journaliste en se disant juste il faut qu'on renonce au contrat sous-payé. Ce n'est pas possible. Je pense qu'il y a des milliers de journalistes à l'heure actuelle qui ne peuvent pas se permettre de passer à côté d'un contrat, même s'il est mal payé, même s'il est sous-payé.
Oui, c'est... Il y a un remplir le frigo, comme on disait en off, c'est que ça devient nécessaire et c'est compliqué quand on a très peu de moyens, quand on est très mal payé, de refuser tout simplement des contrats, que l'on soit d'accord ou non, parce qu'il y a aussi des mauvais thèmes, des mauvais sujets qu'on n'a pas forcément envie d'aborder sous cet angle et que on se retrouve obligé de le faire tout simplement. Et après, pour revenir après dans le thème, je trouve que être engagé dans le journalisme, c'est aussi justement revenir sur la solidarité, mais aussi d'être solidaire au sein même de son groupe de rédaction. C'est-à-dire que pour revenir sur un thème d'actualité, sur le traitement des femmes ou même des hommes, sur le harcèlement sexuel, c'est qu'il y a beaucoup de femmes ou d'hommes qui se font harceler et où rien n'est dit, rien n'est fait. C'est de pas avoir peur de tout simplement d'ouvrir sa bouche et de dire ce qui se passe
au sein de la rédaction, ouais, c'est
au sein même d'une rédaction, c'est incroyable, entre collègues, tout ce qui peut se passer, c'est, il faut dire les choses, il faut pas avoir le peur de se mouiller, mais ça peut être compliqué parfois et je comprends, mais il y a certains cas qui il faut avoir un petit peu de courage d'être solidaire parce que ça peut nous arriver à tout moment aussi à nous-mêmes.
Je pense que la force du collectif est essentielle et notamment dans la profession de journaliste. Je pense qu'il y a vraiment que par là qu'on arrivera à sortir par le haut pour défendre notre indépendance, pour défendre nos rémunérations, pour défendre nos statuts et pour arriver à produire de l'information utile et de qualité et accessible à tous.
Eh bien, merci beaucoup Maëva et Louise pour votre participation à cette émission. Nous sommes toujours sur Radio Campus France 99.5 et nous vous souhaitons une très bonne soirée.
Thank you.